Chapitre 5. Saint Jean d'Acre, Palestine. De la fenêtre qui donnait sur les remparts, le major Kennedy suivait des yeux les bateaux de pêche qui rentraient au port. Malgré la guerre, la vie quotidienne continuait, sans doute peu différente de ce qu'elle était à l'époque des Phéniciens, des Romains ou des Croisés. Tous les envahisseurs avaient inscrit leur nom en lettres de sang sur cette côte de Palestine. Un jour prochain, peut-être, les navires du Troisième Reich occuperaient l'endroit où Bonaparte avait jeté l'ancre en 1799. Kennedy prit sur la table de chevet les sept piliers de la sagesse dont il avait entrepris la lecture. Avec Laurence d'Arabie, le mystère restait entier. Ce n'était pas un homme politique, mais un aventurier, un écrivain et un humaniste capable d'écrire en grec et de discourir en arabe. Il avait aimé conduire les hommes le temps d'un rêve, puis s'était enfermé dans la solitude de l'anonymat. Il avait eu la chance de mourir avant d'être happé par l'hystérie politique des années 30. À quelques mois près, il était curieux de le noter, les sept piliers de la sagesse et Mein Kampf étaient contemporains. À son arrivée à Jérusalem, Kennedy avait été pris en charge par le correspondant du Special Operation Executive. Celui-ci s'était emparé du passeport et des effets personnels de Da Silva pour les mettre en lieu sûr. Trois jours plus tard, une Woolsey conduisait le major à Saint-Jean d'Acre chez un vieil Arménien en qui les Britanniques avaient toute confiance. Jérusalem grouillait d'espions allemands, mais aussi de mouchards et délateurs de tout poil, prêts à se vendre aux plus offrants. Par une curieuse ironie de l'histoire, les agents du Troisième Reich se cachaient souvent parmi les Juifs allemands débarqués d'Europe pour s'installer en terre promise. Sur place, la situation était confuse. Les Juifs aidaient les Alliés dans leur lutte contre le Reich, mais cela ne les empêchait pas de lutter aussi contre l'administration britannique de la Palestine. Depuis 15 jours, Kennedy attendait le feu vert qui le conduirait à Malte. Pendant ce temps, des spécialistes réunissaient à Jérusalem les « souvenirs » qui prouveraient que Da Silva avait passé plusieurs semaines en Palestine. Des factures d'hôtels et de restaurants, 2 ou 3 paquets de cigarettes turques, des reliques du Saint-Sépulcre, une grammaire d'araméen. Rien ne pressait et Kennedy se réjouissait d'avoir quitté le Caire. On était si bien de ce côté-ci de la Méditerranée, loin des principaux terrains d'opération. Mais ce calme relatif durerait-il? Certains disaient que les panzers de Rommel seraient bientôt à Alexandrie. Quant à Malte, la situation semblait désespérée. Les Alliés s'attendaient à une offensive générale pour le début de l'été. Avec un peu de chance, Kennedy ne pourrait même pas se rendre à la Valette. L'opération Bushido n'aurait été qu'un mirage de plus, vite évanoui dans les sables de l'Orient. Berlin. L'entrevue que Subhas Chandra Bose eut avec Hitler le 29 mai fut une date importante pour le leader indien. Ribbentrop, le ministre des Affaires étrangères, était à ses côtés. Il y avait là aussi Wilhelm Kepler, le secrétaire d'État responsable des affaires indiennes. Très vite, Bose se rendit compte que malgré les apparences, le courant ne passait pas. Le Führer, il le sentit, n'accorderait jamais sa pleine confiance à un Asiatique. Du moins, la poignée de main entre les deux hommes, immortalisée par la photo, servirait-elle à la lutte contre les Anglais? Elle prouvait que le chancelier était aux côtés des nationalistes indiens. Hitler entendait bien d'ailleurs continuer à aider Bose sur le plan financier, militaire et diplomatique. Le mot svastika, après tout, était sanskrit, et la vraie croix gammée, symbole de bon augure en Orient, ornait tous les murs de l'Inde depuis des siècles. Aryen était aussi un mot sanskrit, et les élites de l'Inde, celles du Nord, pouvaient se flatter d'appartenir à la race des seigneurs. Ce qui n'empêchait pas le Führer, qui n'était pas à une contradiction près, de parquer dans des camps les tziganes, pourtant venus du berceau historique de l'aryanité. Grâce à la générosité calculée de l'État, la radio de l'Inde libre poursuivait ses programmes. Des milliers de soldats indiens, regroupés dans des camps spéciaux, recevaient la formation militaire qui, bientôt, leur permettrait de libérer par les armes leur pays bien-aimé. Bose savait que, dans le même temps, des milliers d'autres Indiens, faits prisonniers après la chute de Singapour, attendaient en Asie l'heure où eux aussi pourraient participer à la libération de l'Inde. Une table ronde à ce sujet venait d'ailleurs de se dérouler à Tokyo. Aucun Indien ne pouvait accepter les propositions hypocrites de Stafford Cripps, ce clown végétarien que Churchill avait dépêché à Delhi en toute hâte. Les Anglais, pensait Bose, étaient prêts à tous les mensonges. Ils étaient même allés jusqu'à annoncer sa propre mort à la BBC. Il était donc plus urgent que jamais d'aller de l'avant, et en particulier de convaincre Berlin, Rome et Tokyo, de signer une proclamation solennelle, celle qui ferait de Bose le chef légitime de l'Inde nouvelle. Comme tous les idéalistes portés par un grand rêve, le leader nationaliste indien pouvait, à l'occasion, se montrer naïf. Il était cependant beaucoup trop intelligent pour ne pas comprendre que les Allemands étaient des alliés de circonstance. L'Inde était le cadet de leurs soucis. Du jour au lendemain, ils pouvaient lui couper les vivres et décider que la cause indienne ne valait pas un Reichsmark. Certains passages de Mein Kampf prouvaient d'ailleurs que Hitler méprisait le peuple indien. Tout cela, Bose le savait. Reste que sans l'argent et le soutien logistique des Allemands, son entreprise était vouée à l'échec. Entre le Raj et le Reich, deux mots de même origine, il choisissait le Reich, mais à contre-cœur. Il s'était en vérité toujours senti plus proche de l'Italie que de l'Allemagne, de Mussolini ou d'Atatürk que de Hitler. Dans sa villa de briques de Sophienstrasse, à Charlottenburg, dans la banlieue ouest de Berlin, Bose préparait l'Inde nouvelle, l'Inde sans les Anglais, cette Inde qui naîtrait sans doute après de durs combats au cours de l'année 1943. Homme du soir, comme Hitler, il passait ses nuits à lire et à écrire. Son allemand s'améliorait un peu. La vie suivait son cours et sa femme autrichienne, Émilie, qu'il avait rejoint à Berlin, venait de lui confirmer la bonne nouvelle. Elle était enceinte. De nature timide, Bose préférait l'étude de la nature à la fréquentation des humains. La vie lui avait appris à se méfier de tous ceux qui l'entouraient. Dans l'Allemagne de 1942, la délation était érigée en vertu. Chacun se jalousait et s'espionnait. Pour sauver sa peau, il fallait être prêt à trahir ses amis ou ses proches. Bose se savait surveillé, mais ceux qui le surveillaient l'étaient aussi. Si bien qu'à force de regarder derrière leurs épaules, tous ces paranoïaques en arrivaient à oublier l'objet même de leur mission. Hitler s'était déclaré prêt à mettre un sous-marin à la disposition de Bose. L'avenir de l'Inde se jouerait au Japon et à Singapour. Plus que jamais, Bose envisageait son départ. Il avait déjà tout prévu et avait même choisi l'homme qui prendrait sa place en Allemagne, A.C. Nambiar, le journaliste indien qu'il connaissait depuis 1934. Rome. Monseigneur Luigi Borghese, l'éminence grise du secrétariat d'État au Saint-Siège, arpentait à pas lents les jardins du Monte Palatino. Il était censé lire son bréviaire, mais le cœur n'y était pas. À quoi bon prier puisque tout semblait indiquer que Dieu avait abandonné les siens? Il pouvait créer le monde en 6 jours, déclencher le déluge, multiplier les pains, marcher sur les eaux et ressusciter au 3e jour, mais à côté de cela, il se montrait incapable d'arrêter la marche implacable de la barbarie. À moins d'un débarquement américain, rien ne pourrait stopper la victoire du Reich. Toute la Méditerranée, toutes les Russies, tout l'Orient même, allait bientôt agrandir l'empire du Führer. Les Allemands n'auraient plus qu'à faire la jonction avec les Japonais, quelque part entre la Perse et la Birmanie, pour créer un monde où l'amour n'aurait aucune place. Certes, les bombardements sur Cologne et Essen montraient que l'Angleterre résistait. La BBC assurait que leur nombre allait tripler au cours des prochains mois. Cela dit, pouvait-on croire la radio anglaise? La Luftwaffe avait perdu la bataille d'Angleterre. Mais s'agissait-il d'une défaite ou d'une simple accalmie avant la tempête finale? Rommel était aux portes du Caire. En Asie, la Thaïlande se rangeait aux côtés des Japonais qui occupaient la Malaisie, l'Indonésie, Hong Kong, les Philippines et des îles du Pacifique. L'Inde était menacée et une partie de son territoire, dans le golfe du Bengale, faisait déjà partie du nouvel empire japonais. C'était une de ces belles journées de printemps dont Rome a le secret et qui, pour un peu, aurait fait oublier la guerre. Alanguis sur le gazon, des adolescents profitaient du soleil. Sur les bancs, quelques vieillards évoquaient les neiges d'antan. Le prêtre croisa une jeune Italienne qui poussait un landau. Il fallait un bel optimisme pour donner la vie en 1942, alors que personne ne savait si la guerre finirait un jour. Borghese aperçut Adrian Foster, qui, comme prévu, l'attendait au centre du parc. Il garda la même allure et alla s'asseoir sur un banc près de l'Irlandais, qui semblait plongé dans la lecture du Messaggero. Même au cœur de Rome, il fallait être prudent. Finalement, le prélat se décida à parler. Le dernier message que le père Frochy nous a envoyé du Caire confirme que Da Silva poursuit son voyage par Jérusalem. Depuis, hélas, nous avons appris que le père jésuite a été assassiné, ce qui semble indiquer que les Allemands ont découvert le poteau rose. Foster secoua la tête. Je n'en crois rien. Revenons au Vatican. Il faut laisser Pie XII en dehors de tout cela. C'est bien ce que je pense, en effet, mon cher Luigi. Le pape veut protéger les catholiques allemands et autrichiens. Il ne fera rien contre Hitler, qu'il méprise pourtant, croyez-moi. Ah, vraiment? Réjouissons-nous-en, puisque vous l'affirmez. Bon, dites-moi, s'il vous plaît, où vous en êtes pour les papiers. Je les aurai. Aucun problème non plus pour la voiture diplomatique. Je prends un très gros risque, vous le savez. En cas de pépin, le pape n'aura pas à enquêter longtemps pour découvrir mon rôle dans cette affaire. Foster pouffa derrière son journal. Soyons sérieux, mon cher Luigi. Vous risquez tout au plus de perdre votre poste. Et ce n'est pas rien. Je n'ai plus 20 ans. Non, vous en avez 67. Justement, je vois mal Pie XII vous mettre à la torture et vous jeter à votre âge dans un cul de basse fosse. Borghese ne parut pas convaincu. C'est un péché mortel que de mentir au Saint-Père, fût-ce par omission. Ego te absolvo. Entre nous, Luigi, il est encore plus grave de ne pas secourir son prochain. Songez à la parabole du bon Samaritain, peu connue au Vatican, il est vrai. Foster se leva et s'éloigna du prêtre sans le saluer. L'Italien referma son bréviaire et alluma une cigarette. Par chance, fumer n'était pas un péché. Édimbourg, Écosse. Chaque matin, Christine sautait de son lit avec entrain, puis il allait à la fenêtre scruter le ciel afin de vérifier l'inanité du cliché touristique. Édimbourg, l'Athènes du Nord. Athènes? Oui, mais alors l'Athènes du pauvre. Une Athènes sans soleil. Il fallait beaucoup d'imagination pour se persuader que le noirâtre piton rocheux de la cité était l'acropole et la citadelle le Parthénon. La comparaison d'ailleurs s'arrêtait là. L'antenne écossaise de Paternoster occupait tout un étage dans une des vieilles demeures de la ville. En face de la maison où avait habité John Knox, le réformateur religieux du XVIe siècle. Ce qui ajoutait une note d'ironie à la farce. À deux pas du lieu où le pasteur calviniste tonnait contre les catholiques, voici que Christian Lloyd était initié aux arcanes du Vatican, des accords du Latran au fonctionnement du secrétariat d'État au Saint-Siège, de la diplomatie pontificale à la Congrégation pour la doctrine de la foi, de la curie au tribunal de la Rote romaine. La vie des trois derniers papes n'eut bientôt plus de secret pour lui, et il mémorisa, pour le plaisir de l'exercice, quelques pages de l'encyclique papale sur l'idéologie nationale socialiste « Mit brennender Sorge », dont il ignorait même l'existence quelques jours auparavant. Agrémentées de films, les sessions consacrées à la colonie portugaise de Goa étaient plus réjouissantes. Christine fut bientôt capable de reconnaître au premier coup d'œil l'église de l'Immaculée Conception, la basilique du Bom Jesus, la cathédrale de Vella Goa et la croix de Margao. Il avait passé son enfance en Inde, mais c'était dans le lointain nord-est, à quelques 4000 kilomètres de là. Goa était un monde à part, où l'on comptait en reis et non en roupies, où 30% des gens étaient chrétiens et où l'élite se flattait de rêver en portugais. Le colonel Barnes avait convoqué à Édimbourg un éminent professeur de Cambridge, auteur d'une thèse de doctorat sur les langues en Inde. Celui-ci apprit à Christen que le nord de Goa, où Da Silva était né, parlait plus volontiers marathi que konkani. Or, le marathi n'était guère différent de l'hindoustani, langue que Christen maîtrisait assez bien. Ce détail était réconfortant, mais la méconnaissance du portugais resterait tout de même un lourd handicap. Entre-temps, Barnes avait reçu de Delhi le curriculum vitae de Da Silva. Succinct, trop sans doute. Il faudrait faire avec. Son Excellence Monseigneur Don Mario Da Silva était né à Tiracol, Estado da India, le 17 juillet 1890. Études secondaires à Pernem, près de sa ville natale, puis au grand séminaire de Rachol, au nord-est de Margao. Ordonné prêtre en 1917, suit une longue période de 6 ans à Rome, où il obtient un doctorat en droit canonique. Professeur à Rachol de 1923 à 1931, il s'occupe ensuite de la grande exposition consacrée à saint François Xavier. Nommé évêque auxiliaire de l'archevêque métropolitain en 1933, il devient auditeur à la nonciature apostolique de Goa en 1940, après une courte formation à l'Académie pontificale. C'était maigre. À côté de cela, il n'y avait rien sur la personnalité du prélat. On ne possédait aucune photo de lui, sinon celle de son passeport. Il fut donc décidé que Christen se laisserait pousser la barbe, mais il conviendrait d'être prudent à Rome, puisque Da Silva y avait vécu. Pour le plaisir, Christen et Tapa se rendaient une fois par jour au stand de tir, peu utile puisque tous deux étaient des tireurs d'élite. Carlyle. Le papier à en-tête du Premier ministre était parfait, et la signature aurait trompé Winston Churchill lui-même. Décidément, les faussaires étaient de vrais génies, car l'auteur de la lettre était le colonel Barnes. Avec le sentiment du devoir accompli, celui-ci relut le document une dernière fois. Le gouvernement de Sa Majesté s'engage, par le présent document, à s'occuper à partir de ce jour des 5 chats castrés de race européenne, surnommés Ravigi, Titus, Nelson, Roméo et Göring, qui vivent actuellement chez leur propriétaire, Christian Lloyd Esquire, né le 8 septembre 1895 à Shillong, Inde, au manoir 6, route de Halifax à Totmorden, et ce durant toute la durée de la mission d'intérêt national que le Premier ministre lui a confiée. Les animaux susdits seront examinés 2 fois par an par un membre titulaire de la Société royale des vétérinaires, qui vérifiera notamment l'hygiène bucco-dentaire et la régularité des traitements vermifuges et antiparasitaires des félins. Ceux-ci recevront 2 fois par jour une nourriture saine et équilibrée. Au cas où M. Lloyd ne reviendrait pas de sa mission, le gouvernement de Sa Majesté continuerait à leur donner nourriture, soins et habitat. Winston Churchill, Downing Street, 8 juin 1942. Le colonel Barnes, lui aussi, aimait les chats. Il se sentirait donc tenu moralement de recueillir ceux de Christen si celui-ci ne revenait pas de sa mission en Allemagne. Il était plaisant d'évoquer la morale en pleine guerre. Était-il moral d'envoyer 2 hommes dans la gueule du loup? Ce que Barnes apprenait jour après jour le rendait de plus en plus sceptique sur les chances de l'opération Bushido. Les dernières informations reçues du Caire confirmait que le père Antonino Froschi était mort sous les balles d'un revolver allemand. Avait-il parlé avant de mourir? Le message qui arrivait de Delhi était plus inquiétant encore. Le prélat goanais, Mario Da Silva, avait été photographié à Panjim 2 jours avant son départ de Goa, au moment où un espion du Troisième Reich lui remettait un livre et une grosse enveloppe. Une Bible allemande et des billets de banque pour les orphelins de Goa? C'était hélas l'hypothèse la plus improbable. De son côté, le commissaire Jackson venait de rentrer bredouille de Totmorden. Il avait passé 3 jours au manoir en compagnie de 6 policiers, mais la bibliothèque de Lloyd était celle d'un humaniste, non d'un militant politique. Tout juste y avait-on trouvé un livre dédicacé d'Oswald Mosley et quelques exemplaires de la revue nationaliste The Patriot. Pas de quoi fouetter un chat, fut-il nourri par le Premier ministre. Bref, Bushido était mal engagé. Par quelque méchante coïncidence, Monseigneur da Silva, que l'on pouvait croire d'une pureté évangélique, avait des liens avec les Allemands. Il aurait été plus sage d'annuler Bushido, mais Downing Street ne l'entendait pas de cette oreille. S'il y avait une chance sur 1000 de localiser Subhas Chandra Bose, il fallait la saisir, car en Inde, la situation se dégradait. Avec Gandhi, en qui Churchill n'avait aucune confiance, le pire était certain. L'homme au pagne pouvait très bien se suicider devant le palais du vice-roi, se convertir à l'islam ou se rallier à Bose. Les ordres du Premier ministre ne variaient pas d'un pouce. Il fallait sauver l'Inde. La victoire était à ce prix. Berlin. Le jour où le Führer et sa cour recevaient Subhas Chandra Bose à Berlin, Martin Wurtz était admis à l'hôpital. Depuis plusieurs années, il souffrait de la maladie de Dupuytren. Une intervention chirurgicale était nécessaire pour éviter la rétractation permanente des doigts de la main droite. L'hospitalisation dura 3 jours, puis l'ancien journaliste rentra chez lui pour une courte convalescence dans l'appartement qu'il occupait depuis 1939 sur la route de Spandau, à l'ouest de Berlin. Au quartier général de l'Abwehr, son assistant triait les dépêches et suivait les mouvements de Bose. Surveillance bien huilée, 3 équipes de 2 hommes en civil se relayaient toutes les 8 heures. En cas de déplacement, une seule équipe emboîtait le pas au chef nationaliste, même s'il fallait pour cela faire descendre 2 passagers d'un avion à la dernière minute. Martin profita de ce quelques jours de vacances pour brûler des documents personnels. Il choisit quelques photos auxquelles il tenait beaucoup et les glissa dans son portefeuille. À la première occasion, il sauterait dans un avion. Tout, ou presque, était prêt, y compris le passeport de service subtilisé dans le coffre de l'Abwehr et mis en lieu sûr. L'Allemagne avait perdu la tête. Certes, l'optimisme du Völkischer Beobachter restait intact. Mais qui était assez sot pour croire ce journal ? La vérité officielle n'était que propagande. En réalité, les troupes de Rommel piétinaient, la bataille d'Angleterre était une défaite, les armées soviétiques résistaient et l'Union Jack était toujours à Malte. La résistance de cette petite île, à moins de 100 kilomètres des côtes siciliennes, prouvait à l'évidence que les Alliés reprenaient du poil de la bête. Martin et Jutta Wurtz étaient nés à Linz, en Autriche, le 12 juin 1890. D'un père ébéniste et d'une mère margeuse d'imprimerie. Ils virent un jour s'installer de nouveaux voisins au 31 Humboldtstrasse. Ils se contentaient de les saluer d'un signe de tête jusqu'au jour où Martin sympathisa avec le jeune Adolf Hitler d'un an son aîné. Pendant 2 ans, ils se retrouvèrent le dimanche et pendant les vacances. Puis la vie les sépara, les Wurtz ayant déménagé pour Vienne. Quelques années plus tard, Martin signait sa première critique dans une revue d'art, et c'est à une exposition qu'il retrouva son ancien camarade d'enfance, qui entre-temps était devenu aquarelliste. Le jeune Adolphe tirait alors le diable par la queue et se remettait mal du décès de sa mère Clara, trop tôt disparue. Martin Wurtz l'invita au restaurant et lui prêta des livres, mais l'ancien voisin était trop fuyant pour devenir un intime. La guerre les sépara une fois de plus. Ils se retrouvèrent dans les années 20. Par gentillesse, Martin consacra un article élogieux à son ancien camarade d'école. Après le putsch de Munich, quand Hitler se retrouva en prison, il lui écrivit quelques lettres. À cette époque, la capitale de l'Allemagne était aussi celle des homosexuels venus de toute l'Europe. Martin travaillait dur, mais le soir venu, il écumait les boîtes spécialisées de l'Eldorado au Mikado, des lieux très chics aux bars plus prolos comme l'Adonis d'Ile ou la Lunte, où la Société Dorée venait s'amuser. Il y avait toujours eu des ragots sur la vie privée de Hitler. Ils redoublèrent quand celui-ci prit le pouvoir en 1933. mais l'actualité semblait montrer qu'ils étaient sans fondement. Du jour au lendemain, les nuits berlinoises perdirent leurs paillettes. Beaucoup d'artistes passèrent en France et en Italie. Capri restait une destination sûre. De jeunes officiers changèrent leurs fusils d'épaule et se marièrent en toute hâte. Par prudence, Martin Wurtz s'installa chez sa sœur Jutta et, pour se refaire une virginité, se mit à fréquenter les bars à hôtesses qui pourtant le déprimaient. Cette rage anti-homosexuelle lui paraissait d'autant plus étonnante que dans les rangs des SA, que dirigeait Röhm, ami personnel de Hitler, les goûts de certains officiers étaient connus de tous. Le Führer n'oubliait pas son ancien ami d'enfance. Comme s'il voulait le protéger, il l'envoya en Argentine. C'est ainsi que Martin échappa aux rafles qui suivirent la nuit des longs couteaux. Adolphe était fidèle en amitié, mais jusqu'à un certain point, comme Röhm en avait fait l'expérience. Tout pouvait basculer du jour au lendemain, et Martin ne doutait pas qu'il y avait un dossier sur lui au numéro 8 de la Prinz-Albrecht-Strasse, quartier général de la police secrète. Il y en avait un aussi sur l'amiral Canaris, et peut-être même sur Hitler. Et il ne fallait pas compter sur la protection des SS de Heinrich Himmler. En bon puritain, le chef des chemises noires devenait hystérique dès qu'un proche évoquait tout ce qui, à ses yeux, était « widernatürlich », c'est-à-dire « contre-nature ». Martin en était persuadé, c'est Himmler qui avait eu la peau de Röhm. Quand, une semaine après son opération, Wurtz retrouva son bureau de l'Abwehr, il tomba en arrêt sur un message que son assistant avait mis en évidence. Ce message de la légation allemande à Lisbonne lui annonçait que l'agent 0802 venait de regagner l'Europe et serait bientôt de retour à Berlin. 0802 était le code de sa sœur Jutta, dont il était sans nouvelles directes depuis 2 ans. Il savait seulement qu'elle était en résidence surveillée quelque part au Tanganyika. Martin fut saisi par une grande émotion, mais sa joie se doublait d'une grande inquiétude. Pourquoi donc sa sœur n'était-elle pas restée en Afrique? Tout allait devenir plus compliqué. Ce n'était plus seul, mais à deux, qu'il faudrait désormais passer la frontière. Perturbé, il n'accorda pas d'importance au câble du Caire qui traînait sur son bureau depuis une semaine. Encore une histoire d'Indien. Un prélat de Goa, un certain Da Silva, mais le nom ne disait rien à Martin, était mort en Égypte avant d'avoir remis aux Allemands les microfilms qui lui avaient été confiés avant son départ. Da Silva, il faudrait vérifier. Martin passa à autre chose.